Attendez-le, le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va parler de l'affaire Karachi, hein, rapidement. Ensuite,
projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice qui passe en examen au Sénat.
Et plus particulièrement de l'article 3, vous verrez. Ensuite, on aura des nouvelles de la réforme des retraites. Youhou !
Ensuite, on aura le Camion Info pour un reportage. C'est une interview de... Ça y est, j'ai oublié.
On vous dira tout à l'heure.
On vous dira tout à l'heure.
En tout cas, on ira en Serbie.
Ensuite, on écoutera Mondragon et on finira... Ah non, on ne finira pas. Il y aura Faut que ça se sache.
Et ensuite, on finira par le communiqué de
des inculpés, des personnes qui ont été arrêtées ce matin à Rennes. Vous verrez, ça va être la surprise.
Et on commence donc par cette histoire d'affaire Karachi, qui décidément est quand même à rebondissement.
Canu Info.
Mince. Que se passe-t-il ?
Vas-y.
C'est pas la bonne nappe. La nappe de brève. Excusez-moi. Du coup, on va faire une petite brève sur cette affaire Karachi. Donc peut-être que vous vous souvenez, l'attentat de Karachi. Le 8 mai 2002, l'explosion d'un bus transportant des salariés de la DCNI, la Direction des Constructions Navales Internationales, et qui faisait 11 morts parmi les salariés et 4 morts parmi les badauds. Donc c'était une sombre histoire de rétrocommission. Les rétrocommissions, c'est le terme poli pour dire la corruption, finalement, quand on est un col blanc, et qui n'avait pas été payé. Donc ça a entraîné des représailles sous la forme de cet attentat. La justice qui dans des affaires comme ça se montre moins rapide que pour foutre en comparution immédiate un type qui vole des sandwichs de nard, la justice, disais-je, a fini par rendre un avis sur les mises en examen des deux employés. De deux employés de la DCNI, jugés responsables de la mise en danger des autres salariés. Notamment parce que la justice considère qu'ils ont sous-estimé la menace d'attentat due à ce refus de payer les rétrocommissions. Du coup, son avis, c'est que c'est trop tard. Du coup, les deux mises en examen s'en sortent avec un non-lieu pour prescription. La famille des victimes a fait appel, on verra comment ça se finit. Mais a priori, quand t'es un col blanc, c'est vraiment compliqué de te faire condamner. C'était une tentative pirate, mais ça marche
Radio
pas.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info. Alors, il ne fallait pas aller bien loin pour tomber sur l'article 3 du projet de loi orientation et programmation du ministère de la Justice 2021-2027 qui est actuellement en cours de discussion au Sénat, donc pour que ce projet de loi nous fasse frissonner. Et c'est la Quadrature du Net qui veille au grain, qui nous révèle les contours de cet article. Donc cet article est assez dense et va de la possibilité pour les médecins en garde à vue d'accorder la prolongation de celle-ci à distance, à la possibilité également de perquisition de nuit à des crimes de droit commun. Donc au milieu de tout ça se glisse la création d'un nouvel outil d'enquête, et pour cela, quoi de mieux que de se servir de tous les mouchards qu'on a plus ou moins volontairement introduits dans nos habitations ou autour. Le principe, permettre d'activer à distance les appareils électroniques d'une personne à son insu pour obtenir sa géolocalisation ou capter des images ou du son. Alors dans le texte tel qu'il est, la police aura le droit d'exploiter les failles de sécurité existantes d'un smartphone, d'un ordinateur portable pour activer micro ou webcam par exemple, d'une enceinte connectée pour activer son micro, idem pour un babyphone, un interphone vidéophone connecté, une caméra de vidéosurveillance, beaucoup de voitures modernes actuelles, bref tout ce qui est relié à un réseau. Bon, jusqu'à maintenant, même si j'imagine qu'il y a des exceptions, les enquêteurs devaient intervenir physiquement dans un lieu pour y déposer micro, GPS, caméra, keylogger. Vous savez, les keyloggers, c'est ces petits appareils, soit physiques, soit logiciels, qui enregistrent tout ce que vous tapez sur votre clavier et qui permet ainsi d'obtenir vos mots de passe et tout ça, tout ça. Bref, et d'ailleurs, le fait de devoir intervenir physiquement, c'est la justification du ministère de la Justice pour justifier cet article, pour éviter d'exposer la vie des agents de police lorsqu'ils interviennent donc physiquement. Or, comme le précise la Quadrature du Net, le ministère ne s'appuie sur aucune étude ou statistique de risque encouru, ne serait-ce qu'en donnant des chiffres ou même des exemples de policiers morts ou blessés lors de ce type d'intervention. S'ils ne font pas, c'est sûrement parce qu'ils savent aussi bien que la Quadrature du Net qu'il sera très souvent et qu'ils seront aussi encore très souvent obligés d'intervenir physiquement, parce que pour pirater, il est quand même plus simple, pour pirater un appareil connecté de l'avoir entre les mains. Alors aujourd'hui, déjà toutes les données enregistrées dans ces appareils sont utilisées a priori dans des enquêtes. Les avancées technologiques ont permis une grande expansion des possibilités de surveillance, par exemple la qualité des caméras ou des appareils photo. Il est aujourd'hui possible de les installer assez loin d'une porte d'entrée et donc de minimiser le fait de se faire repérer pour surveiller les allées et venues des personnes qui rentrent ou qui sortent d'un endroit. Ce fut le cas par exemple dernièrement dans le quartier des Lentillères à Dijon, où plusieurs caméras ont été retrouvées, une notamment assez haute sur un poteau électrique. Alors bien évidemment, ce projet de loi réserve ce type de surveillance à des crimes et délits particulièrement graves, avec des chefs d'inculpation terribles, mais on sait que ce genre de chefs d'inculpation ont déjà été utilisés sur des militants ou des personnes solidaires de migrants par exemple, et les militants écologiques sont par exemple actuellement souvent qualifiés d'éco-terroristes. Mais surtout, la Quadrature du Net parle d'effet cliquet de ce type de loi. En gros, non seulement il n'y a jamais de retour en arrière, mais au contraire, les mesures intrusives de surveillance s'élargissent toujours. Par exemple, le FNAEG, fichier génétique, au moment de sa création, il était évident que jamais, au grand jamais, il ne s'entendrait à autre chose que pour les seuls auteurs d'infractions sexuelles. Aujourd'hui, quasiment l'ensemble des délits est concerné. C'est parce que l'article 3 de cette proposition de loi suscite de graves inquiétudes sur l'atteinte aux droits et aux libertés fondamentales que l'OLN, l'Observatoire des libertés du numérique, dont fait partie la Quadrature, mais également la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et j'en passe, que l'ONL appelle à faire barrage à cette loi.
Canu Info.
Du mercredi.
Et donc, on va rester dans les magouilles politiques et parler de la réforme des retraites, du coup, qui, si vous avez suivi, avait un texte, le texte d'annulation qui allait passer. Donc, après un passage en commission des affaires sociales, le texte proposé par le groupe Liot sort amputé de son article 1. Alors, c'est là où ça devient comique, c'est que des articles, cette loi, elle n'en avait que trois. Le premier proposait de retirer la réforme des retraites. pendant que le deuxième proposait de financer par une conférence de financement organisée en automne. Le troisième, c'était une histoire de tabac, de rajouter une petite taxe sur le tabac pour gratter un peu d'argent, pour déjà avoir prévu un truc en plus de la conférence de financement.
Ça, c'est parce qu'ils sont obligés pour pas se faire retoquer. C'est-à-dire que pour justifier le fait que ça n'a pas coûté trop d'argent, il fallait qu'ils justifient le fait que ça allait...
Exactement. Et... une conférence pour... voilà. Et du coup le nouveau texte de loi il va comporter deux articles, un article qui propose une conférence de financement pour financer rien, et un article qui propose une taxe sur le tabac qui financera aussi rien. Alors on va la faire rapide parce que rien qu'en commençant à en parler j'ai mal à la tête. Déjà il faut se souvenir que toute cette excitation c'est autour d'un symbole, parce que même si la loi passait à l'Assemblée nationale, elle serait sûrement pas passée ensuite au Sénat, qui est quand même un ramassis de vieux types de droite, et donc encore moins pour qu'on la voie, enfin il y a encore moins de chances pour qu'on la voie finir à la fin appliquée avec un décret d'application de sortie. Mais du coup, même ce petit symbole, c'est déjà trop pour le gouvernement, et quand on dit trop, c'est vraiment trop, au point qu'il s'est passé, donc toutes les magouilles dont vous avez pu entendre parler les 15 derniers jours, le gouvernement les a passées à échafauder des plans, tous les plans les plus tordus du monde, donc notamment autour de cet article 40 dont le camarade vient de parler, duquel vous devez donc être maintenant familier, en tout cas si vous suivez un peu les infos. Et si on comprend bien, ils ont réussi à faire un truc qui n'était pas prévu, enfin en tout cas c'était pas à ça qu'on s'attendait. C'est une manière encore plus originale qu'ils ont eu de... Enfin, ou du moins ils ont fait des trucs en plus que ce qui était prévu avec cet article 40. C'est toujours aussi peu respectueux des usages, mais il y a un truc en plus. Donc en gros, le plan à la base c'était de vendre que les articles étaient recevables donc en vertu de cet article 40, et Yael Braun-Pivert, elle était quand même pas super super chaud, mais enfin bon, elle a fini par semble-t-il y aller, puisque du coup, ce matin en commission, ça a commencé, les LR anti-réforme des retraites, parce que si vous vous souvenez, à l'Assemblée, il y avait une partie des LR qui était anti-réforme, parce qu'à l'Assemblée, t'es quand même un peu plus proche de tes administrés qu'au Sénat, et du coup il y a des LR qui viennent de coins où les gens étaient vraiment vent debout contre la réforme des retraites, du coup ça le fait pas trop d'être toi-même pro-réforme, donc voilà, ils sont anti-réforme, pourquoi pas, hein. Et donc ils ont été remplacés au pied levé ce matin par des LR pro-réforme à la commission, ce qui a tout changé, parce que du coup tous les trucs que je vais vous raconter sont passés par 38 voix contre 34, donc si ces LR avaient pas été changés, on aurait eu une égalité, donc tout ça serait pas passé. Et je pourrais pas vous raconter ce long truc, je vous aurais simplement dit c'est passé à la commission des affaires sociales. Du coup, alors là où ça devient encore plus tordu, donc déjà ils ont changé dernier coup.
Ça a l'air bien tordu.
Sur le pilote... Ah non, mais j'ai passé l'article du Monde, il fait genre 10 pages, j'ai essayé de synthétiser ces 10 pages en une demi-page, du coup vous m'en voudrez pas, j'ai passé des trucs. Donc, changement de rapport de force à la commission pour que les LR soient suffisamment nombreux pour pouvoir faire voter les trucs. Ça, c'est un truc qu'on voit pas trop d'habitude, mais là, pourquoi pas. Ils se sont dit, de toute façon, il n'y a rien qui l'interdit fermement dans le règlement. Donc, on n'a qu'à dire aux deux là qui sont plutôt contre qu'ils ont qu'à dégager. Et voilà. La présidente de la commission, une élue RLREM dont le nom est tout à fait oubliable, a décidé d'empêcher, après la suppression de l'article 1, la possibilité de voter des amendements. Du coup, elle a réuni le bureau de la commission, un truc que d'habitude ils font jamais, et ils ont décidé dans le bureau de la commission que non, il n'y avait pas le temps d'étudier les amendements. Après quoi, il y a deux coursons, donc là le type un peu qui est à la mode maintenant chez l'Eliott, qui a tenté un coup, c'est-à-dire le coup étant de supprimer les deux autres articles. Pour permettre en fait que comme la loi est totalement modifiée, du coup c'est la loi de base qui passe à l'Assemblée, mais ça a pas marché non plus. Du coup, comme je vous le disais, à coup d'article 43, je sais pas quoi, enfin ils nous en ont encore sorti des nouveaux pour justifier justement de pas pouvoir rajouter des amendements. Si vous comprenez rien, c'est normal, c'est parce que en fait ils ont juste... En gros, ils ont fait leur tambouille. Ils ont dit, ouais, ça me saoule, ça. Ok, bon, vas-y. On fait sauter cet amendement, et puis après on fait sauter cet article de loi, et puis après on blinde pour qu'il n'y ait plus rien qui passe, et comme ça la loi elle va passer comme ça. Donc du coup, comme je vous le disais, on finit avec une loi qui ne comprend qu'un article. Article qui propose une conférence pour financer l'article qui n'existe plus. Gageons que LREM a décidé de mettre fin à la 5ème République en faisant la démonstration d'à quel point c'est un régime peu démocratique. Il y a malheureusement tout à parier qu'ils aient derrière la tête moins la promotion de la 6ème République chère aux insoumis que la révolution nationale et le retour à l'État français chère à... Ouais, bon voilà, je vais arrêter là parce que sinon on fait un point Godwin. J'avoue, je comprends pas trop ce qui va se passer jeudi prochain, parce que c'est jeudi prochain que les textes devaient être... devait être examiné. Certaines personnes disent que donc Liot pourrait redéposer un amendement, mais du coup cette fois-là ce serait plus Éric Coquerel des Insoumis qui déciderait si c'est bon pour l'article 40, mais Yael Braun-Pivet qui du coup, vu la pression qu'elle se prend, serait censée dire du coup ça passe pas l'article 40 cet article de loi. Techniquement, si l'opposition a un peu d'humour, j'imagine qu'elle peut pousser l'absurdité à faire voter ce projet de loi sans son article 1, puisque de toute façon, avec ou sans l'article 1, ça ne changera pas grand-chose. Et en le votant comme ça, ils prouveront que l'absence de majorité de la Macronie existe bien, et en même temps que, de toute façon, tout ça n'a plus aucun sens. Et voilà.
Canu Info.
Et c'est l'heure du Canu Info.
Je m'appelle Simon, je suis à Subotica en Serbie avec l'association espagnole No Name Kitchen qui soutient les personnes migrantes. Je suis Sam, je suis aussi ici avec No Name Kitchen depuis un mois et demi. On est environ 8 personnes de No Name Kitchen ici, et l'essentiel de nos activités est de fournir de la nourriture et des vêtements aux personnes qui vivent dans les squats, des maisons abandonnées, une ancienne usine, etc. On a aussi des douches mobiles.
I would like to maybe add that I think our material work here is useful, but clearly not crucial. Like these people are quite resourceful.
Je voudrais ajouter que l'aide matérielle que l'on apporte ici est certes utile, mais clairement pas cruciale. Les personnes que l'on rencontre sont pleines de ressources et ont été capables de traverser sans aide, par exemple la Bulgarie, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'organisations de soutien. Donc clairement, les personnes qui sont ici pourraient s'en sortir sans nous, et c'est important que l'on garde ça en tête. Mais pour ce que j'en perçois, les personnes que nous rencontrons apprécient que l'on soit là, qu'il y ait une organisation qui soucie de la situation et qui tente de parler de ça, de montrer ce qui se passe.
Yeah, we're in the north of Serbia, border with Hungary. So it's also this town already has not been part of Serbia. It's kind of a disputed.
On est au nord de la Serbie, à la frontière de la Hongrie. Ça a été une sorte de territoire disputé entre la Hongrie et la Serbie pendant longtemps. Je crois que ça a aussi été une sorte de territoire indépendant. Maintenant, c'est assez établi que c'est un territoire serbe avec un sentiment nationaliste fort. Mais si on se rapproche encore de la frontière, on trouve des villages où la langue principale est le hongrois et où les gens se considèrent comme hongrois.
There's some people that have or feel absolutely Hungarian, so it's, you can see and perceive that the border is here very much.
Yeah, the whole North Serbian region, the Vojvodina region where we are, is mostly flat.
Toute la Vojvodine, cette région au nord de la Serbie, est très plate. Depuis un squat que l'on visite, on peut voir une ligne grise, le brillant du métal qui se reflète avec le soleil, c'est le mur frontalier construit par la Hongrie qui est à plusieurs kilomètres. C'est un mur très haut avec du barbelé. Il y a deux murs, avec au milieu une route militaire dotée de caméras. Même si c'est un mur très impressionnant et qui court tout le long de la frontière, ce n'est pas ça qui empêche les gens de passer. J'ai le sentiment que c'est surtout un moyen pour la Hongrie de montrer qu'elle protège ses frontières. J'étais en Bosnie avant, et à la frontière avec la Croatie, il n'y a pas de clôture du tout, mais finalement c'est tout de même extrêmement difficile d'arriver dans le pays, que ce soit la Hongrie ou la Croatie, parce que la plupart des pushbacks se font depuis l'intérieur du pays.
Because the most of the pushbacks are happening from inside the country.
Yeah, I mean, they're clearly very active in the squats we're visiting. Every like there's several, some of them that are evicted.
La police serbe est très active pour expulser les squats. Certains sont expulsés constamment, une fois par semaine, la plupart du temps tôt le matin. Ils cassent beaucoup de choses et emmènent les gens dans des camps au sud du pays ou bien dans celui de Chid, pas loin d'ici. C'est souvent violent, il y a des violences physiques qui cassent les téléphones, cassent les portes et les fenêtres pour rendre leur vie ici inconfortable et difficile. Bon, je ne sais pas quel est le but exactement, c'est un autre sujet.
They want to make their lives more uncomfortable and difficult here, so I don't know. So they are not here, or I don't know exactly what's the purpose. That's another conversation.
No, I mean they bring the people to the south of the country, and but it takes them maximum 2 days, and then they're back here in this area. So it's kind
of. La police emmène les gens au sud du pays, mais en quelques jours, les personnes migrantes sont de nouveau ici. C'est une sorte de jeu pénible qu'ils jouent. On peut voir une augmentation des violences de la police. La Serbie veut prouver qu'elle fait quelque chose contre ce qu'ils appellent l'immigration illégale. Et depuis quelques mois, on voit aussi la police internationale, ici, Frontex bien sûr, mais aussi des voitures de la police allemande, italienne et tchèque qui font des rondes dans la ville. De ce que nous avons compris, ils recueillent des infos, posent des questions, observent et participent aussi aux expulsions. Sans participer activement, mais ils sont là. Une voiture de Frontex avec la police serbe qui expulse un squat et l'agent de Frontex qui est là et regarde.
From what we've understood, they never actively participate, but they are there. Like maybe that's like two cars of Serbian police and a car of Frontex, and then Frontex officers are just looking. And yeah, we were informed that there was this big eviction in Sombor camp.
Le camp de Sombor a aussi été évacué le 24 avril dernier, alors que c'est un camp légal prévu pour accueillir des personnes migrantes. Il y avait environ 300 personnes à l'intérieur, alors qu'il est prévu pour accueillir 100. Mais même pour 100 personnes, les conditions de vie sont très mauvaises. L'expulsion était justifiée par ce surnombre en disant qu'il fallait vider le camp. Mais c'est absurde parce qu'il n'y a pas de limite, pas de contrôle sur combien de personnes y entrent, donc c'est un lieu évidemment voué à être surpeuplé parce qu'il ne suffit pas en regard du nombre de personnes qui passent ici. C'est censé être un lieu plus sûr pour les personnes migrantes parce que c'est un camp légal et que les squats sont expulsés. Mais finalement, les camps sont aussi expulsés. On m'a dit que ce n'était pas une pratique fréquente, mais que ça arrivait de temps en temps. Peut-être que cette fois, on en a parlé davantage parce qu'il y a eu des vidéos très violentes où on voit des personnes battues au sol frénétiquement, donc ça a été plus médiatisé. Mais cette pratique n'est pas une exception et arrive parfois.
And I think that made it to the media more because of that. But apparently it's not. It happens. But in general, people that come are constantly trying to cross. They're like, they come, they say, okay, I rest here for 3-4 days and I try to go again, but as pushbacks are very common.
En général, les personnes qui sont ici essayent de franchir la frontière, restent ici quelques jours et font plusieurs tentatives au rythme où ils subissent les pushbacks très fréquents de la police hongroise. Il y a des différences, disons, d'intensité dans ces pushbacks. Parfois, leur téléphone est détruit, le sac à dos jeté et les chaussures aussi très souvent. Donc, quand les personnes subissent un pushback, ils doivent d'abord prendre de nouveau quelques jours ici pour organiser à nouveau quelques affaires. Habituellement, les pushbacks n'ont pas lieu à la frontière exactement, mais tout de même dans la zone frontalière. Il y a très peu de pushbacks depuis Budapest, 80-90% des pushbacks le sont depuis la zone frontalière. Mais il y a aussi des pushbacks, disons, en chaîne, c'est-à-dire depuis d'autres pays. Les personnes sont d'abord chassées d'Italie, puis de Slovénie, puis d'Autriche, donc pas directement du pays frontalier de la Serbie. Je vis en Autriche et il y a eu cette situation où la police autrichienne renvoie les gens en Slovénie, la police slovène les renvoie en Croatie et la police croate les renvoie en Bosnie.
The Austrian police did a pushback to Slovenia and then Slovenian police did a pushback to Croatia and the Croatian police put them to Bosnia again. Yes, I think lately with the European Union they're discussing a lot these visa restrictions from Serbia, but we have the.
I think Serbia has. Avec l'UE, il y a eu des discussions sur les visas que la Serbie alloue à certains pays, comme quoi cela favoriserait l'immigration illégale. En fait, les visas concernent la Turquie, l'Inde et le Bangladesh, je crois. Et la plupart des personnes que nous voyons ici ne viennent pas de ces pays-là. L'UE est dépendante de la manière dont la Serbie gère les frontières, cautionne les déplacements forcés au sud du pays. La Serbie gère aussi la frontière avec la Macédoine du Nord, donc même si les relations entre l'UE et la Serbie peuvent se tendre, notamment au sujet de la Russie, parce que la Serbie est très pro-russe, l'UE est obligée de soutenir la Serbie parce qu'elle a besoin de sa coopération sur cette question des frontières. C'est la même chose avec la Croatie, qui est déjà dans l'UE, mais qui vient tout juste de rentrer dans Schengen malgré les violences avérées des pushbacks de sa police aux frontières. C'est évident que l'UE cautionne ces pratiques des pays qui font le sale boulot pour elle.
Obviously, European Union is dependent on Serbia and on Croatia and on these countries who are doing the bad work kind of for the European Union.
Du côté de Calais. Et ce matin, vers 6h, un exilé soudanais candidat à la traversée est mort écrasé par un camion. Il a chuté alors qu'il tentait de grimper entre la remorque et la cabine du camion et est passé sous ses roues. Depuis 2021, 3 personnes sont mortes de cette manière. D'après Info Migrant, les traversées par camion se font très rares. Il est devenu impossible de ne pas se faire repérer avec tous les dispositifs de sécurité qu'il existe entre la France et l'Angleterre. Et c'est pour cela que l'immense majorité se tourne donc vers la traversée maritime. Mais cette traversée est donc plus chère. Et pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens, ils tentent donc leur chance en se cachant dans un camion au risque de leur vie. En Espagne, une enquête est ouverte après la mort par balle d'un jeune Malien. La semaine dernière, un jeune Malien est mort par balle alors qu'il prenait la route des Canaries au départ du Maroc pour rejoindre les îles espagnoles. 3 personnes ont également été blessées. C'est au moment où elle s'apprêtait à quitter la plage que l'armée marocaine a tiré à plusieurs reprises. La présidente de l'association espagnole Caminando Fronteras, qui s'appelle Elena Maleno, assure que des soldats marocains ont tiré sur une embarcation de 43 personnes au sud de l'Ayoun, mardi 23 mai à 7h du matin. Les militaires ont tiré à 4 reprises, 4 personnes ont donc été blessées. Les 4 personnes sont tombées à l'eau, dont la personne malienne décédée sur place. Le bateau a malgré tout poursuivi sa route et a été secouru en mer par des sauveteurs espagnols. Après un examen médical, sauvées, 3 autres personnes migrantes ont également subi des blessures par arme à feu. Une enquête espagnole a été ouverte, on imagine qu'elle ne donnera pas grand-chose, car depuis le réchauffement diplomatique entre l'Espagne et le Maroc il y a 2-3 ans, ce dernier met tout en œuvre pour empêcher les exilés d'atteindre le sol espagnol. Info Migrant rappelle qu'en septembre 2020, une jeune femme a été tuée par balle dans la poitrine alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre les îles Canaries.
Et donc on va finir par le début d'un petit communiqué. Ce matin, donc c'est le communiqué de la DC que vous pouvez retrouver en entier sur leur site, la DC de Rennes.
DC, c'est pour Défense Collective.
Ce mardi, dès 6h du matin, la police rennaise a procédé à la perquisition de plusieurs appartements de camarades à Rennes. À notre connaissance, 5 d'entre eux sont actuellement toujours en garde à vue. Nous n'avons pas connaissance des faits exacts qui leur sont reprochés. Nous savons toutefois que les enquêtes concernant les manifestations s'étalant de février à avril 2023 sont en cours lors d'un mouvement social contre la réforme des retraites. Elles comprennent dans leur motif une association de malfaiteurs à caractère criminel, information qui a été confirmé par un des avocats qui est mobilisé sur ces gardes à vue. À Rennes, ce n'est pas la première fois que le mouvement social est confronté à une tentative de criminalisation de cette envergure. En 2016, lors du mouvement contre la loi travail, 20 personnes qui participaient à une action métro gratuite sont visées par une instruction criminelle et inculpées pour association de malfaiteurs. Très vite, la solidarité se diffuse au sein du mouvement social. Personne ne se rend en convocation, l'instruction se fissure. Après des années de procédure, l'affaire des 20 du métro finit en queue de poisson pour nos enquêteurs adeptes du coup de filet. Les camarades s'en sortent finalement avec une simple amende contraventionnelle. Ils disent qu'ils ont écrit plusieurs textes sur cette affaire. Donc voilà, on n'en sait pas plus, enfin pas trop plus. Vous pouvez aller lire le communiqué dans leur intégralité. Il est, comme je vous disais, sur leur site.
Et c'est fini.
C'est fini, t'as pour pas réussi soir. À faire
non, terminer. Non, j'ai pas d'infos en plus.
T'as pas réussi à faire
et ni d'infos, ni d'agenda. Si vous voulez un agenda, allez voir sur rebellion.info. Et voilà, et nous, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et on vous laisse avec les bandes continues. Et vous retrouverez l'émission Idées Noires juste après. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio Canu.
C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.